Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
La différence n'est pas longue à découvrir entre le vrai et le faux, Gavroche. Le faux, vulgaire, agressif, crapuleux. Le vrai, dur, direct, éclatant comme un diamant blanc-bleu.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Bandits imberbes, enfants dévoyés, adolescents perdus, la violence des mineurs s'est beaucoup accrue en France depuis 10 ans, si on en croit les statistiques fournies par l'Observatoire national de la délinquance. Entre 2000 et 2009, on constaterait une augmentation de 117% du nombre de mineurs mis en cause dans les vols à main armée, ou encore 25% des vols commis sur des femmes dans les lieux publics par des mineurs de 18 ans. Le phénomène est évidemment voué à préoccuper une nation tout entière et j'ai souhaité ce matin proposer un rapprochement avec le 19e siècle qui a vu prospérer des inquiétudes auxquelles font écho celles d'aujourd'hui, avec toutes les interrogations qu'elles suscitent de façon récurrente. D'abord quant à la responsabilité de la société dans cette évolution, ensuite quant à la dialectique de la répression et du soutien à apporter aux enfants à la dérive dans les milieux et les quartiers accablés par l'injustice de la misère, enfin quant aux méconnaissances mutuelles que nourrissent d'âge en âge, d'une classe à l'autre et malgré les efforts de beaucoup d'âmes généreuses, la peur, l'envie, l'incompréhension. Jean-Jacques Ivorel est mon invité ce matin. Il a beaucoup écrit sur ces questions et il enseigne à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, où l'on forme des éducateurs spécialisés. D'abord, un propos de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Lionel Jospin en 1998.
À mon sens, c'est lié à une crise profonde de l'éducation, une perte des repères, à la multiplication des cas de divorce, hein, plus de 200 000 par an, au fait que les enfants passent plus de temps devant la télé que devant leur maître d'école, à une certaine inefficacité de l'éducation nationale, de l'école publique elle-même, face à cette crise profonde qui est liée aussi probablement au chômage, à une certaine inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Alors il faut réagir très vite, rappeler ces jeunes à la règle, les rappeler même à la réalité, parce qu'ils vivent dans le virtuel. Tout ce qu'on sait par rapport à ceux qu'on a arrêtés, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des petits sauvageons, là. Ils n'ont rien à la tête. Hein, ils ne font pas la différence entre ce qui se passe à la télévision et ce qui se passe dans la réalité. Alors il faut les rappeler à la réalité. Je pense que le cas échéant, pour la poignée d'entre eux qui rendent vraiment la vie impossible dans les quartiers, il faut les écarter pendant un temps. Et pour les autres, il ne faut pas attendre le deuxième délit avant d'effectuer ce rappel à la règle, quelle qu'en soit la forme.
Jean-Jacques Ivorel, bonjour.
Bonjour.
C'était donc Jean-Pierre Chevènement sur France Inter le 10 mars 1998. Commençons par ce mot de sauvageon qui a beaucoup fait parler à l'époque.
Ah, je pense que là, il y a eu un contresens sur le mot de sauvageon. Le sauvageon, c'est un stricto sensus, c'est un arbre non greffé. Pour qu'il devienne un arbre productif, il suffit de le greffer. C'était sans doute une métaphore, il suffirait de les éduquer pour que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on en fasse de bons citoyens. Mais on a pensait sans doute que sauvageon était simplement une forme de petit sauvage, ce qui était faux. Le terme a d'ailleurs été utilisé dès le 19e siècle et pour les mêmes choses.
Un à la fin déjà dans une concordance des temps. Merci
voilà.
À vous.
Voilà. À part ça, le propos est intéressant sur les explications que donne Jean-Pierre Chevènement à un phénomène de la délinquance juvénile, parce qu'il reprend finalement un certain nombre de données tout à fait traditionnelles, comme le problème des familles recomposées, comme le problème de la télévision. Mais on a toujours mis en cause les médias comme cause de délinquance juvénile. Dès qu'on en invente un nouveau, on le met en cause. Et d'ailleurs, il est là un petit peu en retard, parce que maintenant, c'est les jeux vidéo et Internet qui sont
vous ne pouvez pas le lui reprocher, on est en 1998, c'est-à-dire il y a 12 ans de cela. Oui, j'ai choisi ce propos parce qu'il me paraît déjà posé sur notre table, à l'orée de cette émission, les questions majeures que nous allons avoir dans la longue durée. Nous partons, si vous voulez bien, de la monarchie constitutionnelle, disons à partir de la fin de l'Empire, car c'est le moment où vraiment on a le sentiment qu'est né un nouveau problème social, la délinquance juvénile.
Alors tout à fait, c'est vraiment pendant les monarchies constitutionnelles que l'on va inventer la délinquance juvénile. Alors bien sûr, j'entends pas par là qu'il faille penser qu'il faut attendre ce 19e siècle pour que des gens jeunes en âge commettent des actes qualifiés de délits ou de crimes. Ça existe depuis fort longtemps.
Vous avez étudié cela, vous avez regardé cela avec Robert Muchamblé dans une émission antérieure.
Voilà. Par contre, ce qui est tout à fait neuf, c'est qu'on constitue cette délinquance des plus jeunes comme problème social singulier, différent de la délinquance des adultes et nécessitant des réponses particulières. Et ça, c'est vraiment une invention de cette période.
Vous avez fait émerger un petit ouvrage publié à compte d'auteur par un certain Julien en 1838 et qui s'appelait « Des enfants vicieux et criminels ». Ces enfants vicieux et criminels, comment les définit-on alors ?
Oh, ces enfants vicieux et criminels, c'est d'abord et avant tout ce qu'on appellerait aujourd'hui les enfants des rues. Des enfants vagabonds, livrés à eux-mêmes, appartenant aux nouvelles classes urbaines qui viennent à la fois construire les villes et remplir les ateliers, à cette classe laborieuse qui se confond de plus en plus à l'époque, pour reprendre l'expression de Louis Chevalier, qui se confond avec une classe dangereuse.
Classe laborieuse, classe dangereuse, c'est le livre fameux de Louis Chevalier, en effet. On a le sentiment qu'émerge, en tout cas dans la conscience des contemporains, en ces années de la Restauration, un nouveau fléau social. En 1826, je relève ce propos d'un docteur Sego qui enquête dans les geôles marseillaises et qui écrit « Les mœurs se détériorent dans une progression effrayante. Les jeunes gens, naturellement portés à l'imitation, suivent facilement les exemples qu'on leur donne. » C'est déjà ce qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision ou sur les écrans des ordinateurs. Et surtout, dit le docteur Sego, ils saisissent avec avidité des propos obscènes qu'ils entendent. Aussi arrive-t-il souvent que ceux qui restent seulement un mois dans les prisons contractent certaines habitudes inséparables du crime et de la débauche, et au lieu de devenir meilleurs après, ils sont au contraire plus enclins au vice. Je vous donne cette citation parce qu'elle pose déjà la question de la répression.
Elle pose la question de la répression et elle pose la question même de l'invention de la délinquance juvénile, puisque finalement, c'est où découvre-t-on cette question sociale nouvelle ? Avant de la découvrir dans les tapis francs ou les quartiers mal fréquentés, où on la découvre dans les prisons. En 1819 est créée la Société royale pour l'amélioration des prisons, et le docteur Sego est un des membres de cette Société royale pour l'amélioration des prisons, qui a pour but de comprendre pourquoi l'objectif de la prison, qui aurait été la réinsertion, pour parler comme aujourd'hui, enfin le retour de gens désormais amendés dans la société, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et pourquoi, au lieu d'améliorer ce qu'on y met, a la tendance à les rendre moins bons.
Il faut rappeler que c'est le temps, précisément, où la prison s'installe vraiment dans la société française comme un élément central de répression à partir du Premier Empire.
Tout à fait. La prison comme moyen de punir est une invention à la fois des Lumières, au niveau théorique, de la Révolution française et de l'Empire, au niveau pratique.
Bentham d'un côté et de l'autre, l'Empereur.
Voilà, hein, tout à fait. On enquête donc sur ces prisons, et c'est en enquêtant sur ces prisons, où il se trouve qu'il y a aussi des gens très jeunes, des enfants, que l'on commence à penser la délinquance juvénile comme problème social particulier, avec l'idée que si la prison peut être nocive pour de nombreuses personnes, elle l'est de façon quasi systématique et bien aggravée pour les enfants. Et donc on commence à avoir une visibilité finalement de cette catégorie particulière de délinquants, que sont les plus jeunes, les mineurs.
Alors pour parler concret, un exemple de méfait d'enfants, de très jeunes adolescents, récemment, enfin en 61, c'est le gang des culottes courtes évoqué depuis le Quai des Orfèvres par le journaliste Daniel Pouget.
Depuis le mois d'octobre dernier, de nombreuses plaintes, une quarantaine en tout, affluaient dans tous les commissariats de Paris et de banlieue. Voici pourquoi. Un enfant, âgé d'une douzaine d'années, allait au hasard de ses promenades au domicile de gens divers. Se présentant, le jeune garçon affirmait venir pour le compte de monsieur le curé de la paroisse qui organisait, disait-il, un goûter pour les fidèles. Et monsieur le curé, ajoutait le jeune homme, serait désireux d'avoir la présence de toutes ses ouailles. Si la personne sollicitée refusait de venir, l'enfant la priait alors de donner pour le denier du culte. L'argent était bien entendu empoché. Mais souvent, l'enfant insistait en demandant aux braves gens un mot d'excuse pour monsieur le curé. Pendant que sa victime allait chercher du papier, l'escroc en culotte courte subtilisait l'argent liquide qu'il pouvait trouver et prenait ensuite le large. À la suite d'une longue enquête, les policiers de la brigade des mineurs identifiaient le jeune voleur, Claude P., 13 ans, demeurant chez ses parents à Ivry-sur-Seine, rue de Paris. Pris en filature, le jeune Claude fut arrêté lundi matin, rue Sancier, alors qu'il venait de dérober un sac contenant pour 18 000 anciens francs de pièces de monnaie à un vieux retraité de 79 ans. Ramené au siège de la brigade des mineurs, le jeune Claude a reconnu tous ses forfaits, mais a avoué aux policiers qu'il agissait souvent en compagnie de son frère aîné, Norbert, 15 ans, et ce, sur l'instigation de leur mère. Cette dernière, âgée de 39 ans, d'origine allemande, a été arrêtée. Le père de famille, âgé de 57 ans, exerçant la profession de représentant de commerce, a déclaré aux policiers que s'il était étonné par le train de vie de sa famille, il ne se doutait de rien. Toutefois, M. P. sera interrogé par le juge d'instruction. Ici Daniel Pouget, qui vous parlait du Quai des Orfèvres, à vous le studio.
Tous les personnages sont en place, Jean-Jacques Ivorel. Il y a l'enfant, son frère aîné, la mère dont on n'oublie pas de rappeler qu'elle est d'origine étrangère, qui te tonne. Et puis le père qui ne voit rien passer. Tout cela, on pourrait les transposer au 19e siècle.
Sur plein d'aspects, oui. Le premier aspect, c'est qu'on va partir d'un cas particulier et on va construire une sorte d'archétype à partir de ce cas particulier, de ce qui constitue la délinquance. Ça ne veut pas dire qu'un archétype n'existe pas, ça veut dire qu'à partir de quelques cas singuliers, on fait une grande opération de généralisation. On fabrique ainsi une sorte de sociologie spontanée du phénomène social. On présente d'abord quelque chose qui est relativement rare, l'enfant menant une escroquerie pensée, réfléchie, etc., qui est un cas rare, mais qui permet de montrer à quel point les mœurs se détériorent puisque les enfants sont touchés par ce genre de phénomène. On a la mère complice, le père démissionnaire absent, etc. On a là des éléments constitutifs de la délinquance qu'on trouve déjà dès le 19e siècle, c'est-à-dire cette idée d'une responsabilité des parents dans la délinquance des jeunes, des enfants, est déjà présente très tôt au 19e siècle, notamment de la démission des pères. Il y a tout un discours au 19e siècle sur le fait que...
Déjà
Très très fort. La Révolution française aurait, certains commentateurs vont très loin, aurait en quelque sorte castré les pères en leur retirant une partie de leur puissance, notamment celle de pouvoir décider de leur héritage. Et tout cet égalitarisme révolutionnaire aurait été à l'origine de bien des phénomènes de délinquance.
C'est ce qu'on dit du côté naturellement de la contre-révolution des monarchistes.
Tout à fait.
Et alors le fait que ce jeune escroc s'en prennent à l'Église, à un bon prêtre, à l'incarnation du bien dans la société.
Oui, symboliquement, c'était de montrer qu'on utilise ce qui est censé être symbole de la bonté, de l'abnégation, de la solidarité pour commettre ces escroqueries. Il est à noter, par exemple, que dans les archives, notamment par exemple dans la Gazette des tribunaux, on va fréquemment commenter le fait que des enfants se font pilleurs de troncs.
Ah oui, les Gazettes des tribunaux, qui est une source évidemment profuse, et où on voit fonctionner un certain nombre de séquences en quelque sorte obligées, d'archétypes, comme vous disiez.
Ah, tout à fait. La Gazette des tribunaux est un des grands fabricants d'archétypes du 19e siècle, d'archétypes de déviance, de délinquance du 19e siècle. On a là vraiment une source merveilleuse sur la fabrication de ces archétypes. Et alors le mineur pilleur de troncs, on en a régulièrement.
Venons-en à la réflexion du temps, du 19e siècle, sur les raisons de la délinquance juvénile, les raisons profondes. Voici un extrait d'une interview d'un juge d'enfants du 27 août 1960. tiré de l'émission alors célèbre de Clara Candiani dans Paris vous parle.
Les parents font comme nous peut-être, manquent de fermeté, mais sont-ils entièrement responsables? J'imputerai davantage une responsabilité à la presse et à la littérature en général qui crée un état d'esprit dont souffrent autant peut-être les parents que les enfants. On a fait trop de cas des actes commis par les mineurs et la littérature en général et le cinéma peut-être plus particulièrement leur donne aux parents comme aux enfants une atmosphère qui fait que dans la vie, ils transposent ce qui devrait n'être que de la littérature.
Avez-vous l'impression qu'il y a une recrudescence de la délinquance juvénile ?
Il y a une augmentation des cas et une aggravation de la nature des faits qui sont reprochés aux enfants. Ce qui est plus inquiétant, c'est la gravité des faits qui augmente perpétuellement et de délits immotivés. On se demande pourquoi certains jeunes gens commettent certains faits. Ils ne donnent pas d'explication, si ce n'est qu'ils font les choses, on ne sait pourquoi. Je pense qu'une certaine philosophie qui se dégage de certaines manifestations littéraires ou artistiques arrive à avoir une influence sur ces petits cerveaux mal disposés à faire la part des choses et la part de ce qui peut être admis ou ne peut pas l'être.
On en revient en somme à la grande question de l'influence des mauvaises lectures sur les jeunes cerveaux.
Cette interview est vraiment tout à fait typique d'un discours récurrent. D'abord sur le thème des jeunes de plus en plus jeunes commettent des actes de plus en plus graves.
Ça, c'est constant.
C'est pas constant, mais c'est récurrent. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ce discours n'est pas tenu, mais à intervalles réguliers, on va reprendre ce discours depuis la monarchie de juillet jusqu'à nos jours.
On finira par avoir des nourrissons comme étant des hold-up.
Tout à fait, puisque depuis qu'ils se rajeunissent et qu'ils commettent des actes de plus en plus graves, on devrait en effet logiquement en arriver là. Donc il est typique de ce discours, hein. On peut vraiment faire un florilège des propos de ce type, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes où les tensions sociales, etc., font qu'il y a une aggravation objective et réelle de la délinquance juvénile. C'est deux choses tout à fait différentes.
Bien sûr.
Et puis il est typique de l'accusation, on va dire, portée sur les médias au sens le plus large. Et alors ça, bon, j'avais trouvé quand même des choses tout à fait extraordinaires où le théâtre romantique était institué comme une des causes de la délinquance juvénile. Hernani comme cause de la délinquance juvénile, ça nous paraît assez drôle. Systématiquement, tous les médias ont été mis en cause comme raison de la déviance juvénile. Le théâtre de boulevard, la presse, surtout bien sûr quand il s'agit de médias populaires, hein, la presse de grand tirage, le cinéma dès sa naissance est mis au banc des accusés, à tel point qu'en travaillant sur des discours savants sur la délinquance juvénile et en faisant ce qu'on appelle des études de surface, en regardant quelle est la part qu'on accorde à telle ou telle raison, on trouvait plus de surface accordée au cinéma dans les années 40, hein, 40-50, plus de surface accordée au cinéma que par exemple au chômage ou à la pauvreté, dans les causes même de la délinquance juvénile.
Mais vous considérez que sur la longue durée, ce type d'explication est absolument indu, absolument farfelu, parce qu'on va évidemment du théâtre romantique jusqu'aux ordinateurs d'aujourd'hui.
Tout à fait. D'abord, c'est absolument indémontrable, surtout. La première chose, c'est qu'on ne peut absolument pas être dans des relations comme ça de cause à effet aussi primaires. Et puis, ça semble être quand même un élément très secondaire des phénomènes de déviance et de délinquance juvénile.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il y a le même, c'est un vrai titi. Petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange. Et dans le yardi, s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, il lance un défi. Ah, l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Et c'est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit. Aussitôt qu'il voit un képi, un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il y a le même, c'est un vrai titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il a hérité lors de sa naissance de tout un passé, lourdes conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Il sait que sur des places pour un idéal, des petits gars pleins d'audace à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui danse, s'il faut peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, rappelle-toi que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris dans une bouteille.
C'est Patachou, vous l'avez sûrement reconnu, Jean-Jacques Ivorel, qui interprétait Le Gamin de Paris en 1955 sur scène. C'est une chanson de Mick Michel. On est à l'Olympia. Il y a là, évidemment, un regard très, très positif sur le personnage.
Alors, le Gamin de Paris, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça va être le premier parangon du délinquant juvénile. Et là, on en a une vision extrêmement positive. J'allais dire la vision hugolienne, la vision de Gavroche qui est directement évoquée.
Dans Les Misérables.
Des Misérables. Je crois que Victor Hugo a finalement fait un peu masque par rapport à ce qu'était la représentation du gamin de Paris au XIXe siècle par les élites du XIXe siècle, qui était majoritairement négative, avec des propos d'une dureté sociale, que ce soit ceux de Chateaubriand, que ce soit ceux des frères Goncourt, que ce soit ceux de Moreau-Christophe, inspecteur des prisons, qui voit dans Le Gamin de Paris vraiment le danger juvénile dans sa quintessence.
Vous évoquez Chateaubriand. Je vous donne cet extrait des Mémoires d'Outre-Tombe. En effet, très, très éclairant, visage sombre du Gavroche. Les enfants, intrépides parce qu'ils ignorent le danger, ont joué un triste rôle dans les trois journées. Entendez les journées de juillet qui ont amené la chute de Charles X, que Chateaubriand évidemment déplore. À l'abri de leur faiblesse, ils tiraient à bout portant sur les officiers qui se seraient crus déshonorés en les repoussant. Ils profitent du fait que, évidemment, on n'ose pas tirer sur eux. Enfin, on a quand même tiré sur Gavroche un peu plus tard, dans Les Misérables. Les armes modernes mettent la mort à la disposition de la main la plus débile. Singes laids et étiolés, libertins avant d'avoir le pouvoir de l'être, cruels et pervers, ces petits héros des trois journées se livraient à des assassinats avec tout l'abandon de l'innocence. Fin de citation.
Ça nous ramène à l'origine du Gamin de Paris. D'abord, c'est un type, c'est-à-dire que c'est d'abord une création littéraire de type comme la grisette, comme on est dans cette période des physiologies, des littératures de type, dont le grand monument sera Les Français peints par eux-mêmes, qui a d'ailleurs un chapitre, bien évidemment, sur le Gamin de Paris.
De quand, ce fameux livre ?
Sous Louis-Philippe, c'est publié entre 40 et 42 ou 43. C'est vraiment un type qui naît sur les barricades, en effet, des Trois Glorieuses, de juillet 1830, à tel point que, très souvent, on verra dans L'Enfant au pistolet, d'un des plus célèbres tableaux français, qui est La liberté guidant le peuple de Delacroix, on fera de L'Enfant au pistolet une sorte de représentation prémonitoire, puisque c'est de Gavroche, à tel point que ça sera un gros plan de L'Enfant au pistolet sous forme de gravure qui servira d'illustration aux Misérables.
Le couvre-chef est important.
Ah oui, c'est le couvre-chef des étudiants. À lui tout seul, ça permet de faire un lien de toutes les jeunesses, parce qu'on est dans l'unanimisme de l'après-1830. Donc, tous ces jeunes qui ont participé aux révolutions, à la révolution de 1830 sont vus, au moins dans un premier temps, de façon très positive, comme avec le personnage symbolique du jeune Arcole, qui nous a laissé un pont, parce que le pont d'Arcole n'est pas nommé ainsi à cause de la bataille menée par Bonaparte, Arcole, mais c'est à cause d'un épisode de la Révolution de 1830, où un enfant va se lancer à l'assaut du pont de la passerelle de Grève, ça s'appelle pas le pont d'Arcole, en disant « Souvenez-vous de mon nom, je suis Arcole ». D'ailleurs, ces représentations, il est tantôt représenté comme un un jeune polytechnicien ou un jeune étudiant, tantôt représenté dans les représentations graphiques, hein, tantôt représenté comme un jeune ouvrier, comme un jeune d'essence populaire. On a les deux représentations de ce jeune Arcole, et donc une idée unanimiste du gamin de Paris.
C'est un peu le successeur, le petit frère de Barat, le vaillant combattant voilà, des guerres de Vendée, qui est devenu
tout à fait.
C'est un personnage symbolique de la résistance. À tous ceux qui ont détesté la République. Il y a d'ailleurs beaucoup de rues Joseph Barat dans la France entière.
Oui, c'est tout à fait en effet un successeur ou un personnage intermédiaire entre Baraviala, enfin les héros de la Révolution française, et Gavroche. C'est pas encore Gavroche.
Alors, tout au long de la Monarchie de Juillet, on voit glisser le personnage, d'abord positif, vers la négativité. On est frappé de voir, par exemple, le savant congrès pénitentiaire de 1847, où l'inspecteur général des prisons, Louis Mathurin Moreau-Christophe, utilise l'archétype de façon, cette fois-ci, extrêmement négative. Il le transforme en une véritable catégorie sociologique en disant « L'enfant du peuple de Paris est à la fois un type et une exception. Il n'est pas un enfant du peuple des communes rurales. Il appartient, pour ainsi dire, à une autre nation, écoutez bien, à une autre race. C'est à proprement parler une individualité à part. » Et il ajoute « C'est par l'intelligence qu'il brille, mais en même temps, c'est par le cœur qu'il pêche. Il pêche par le cœur parce que le plus souvent, il appartient à une mère dont il a sucé les vices avec le lait, à un père habile dans l'art de vivre du bien d'autrui, à une famille dont les vertus domestiques sont le concubinage et la prostitution. » Fin de citation.
Donc, cette citation est remarquable par la violence sociale, le portrait lui-même qu'elle dresse du gamin, et puis parce que vous avez souligné, c'est-à-dire que ce qui n'était qu'un type littéraire devient une catégorie sociologique qu'on utilise dans un congrès savant. La construction entre les différents types de discours, la circulation entre les différents types de discours, la littérature de genre qui ne prétend pas à la constitution d'un discours académique, et on le retrouve dans un congrès savant, et on va retrouver le gamin de Paris comme véritable réalité sociologique, catégorie sociologique. J'allais dire, le gamin de Paris, comme le prolétariat, c'est une catégorie sociologique savante. Alors qu'au départ, ce n'est qu'un type et que les premiers auteurs sur le gamin de Paris n'avaient pas pour objectif premier de produire un discours académique, mais de distraire leurs lecteurs.
Ce va-et-vient, effectivement, entre la littérature d'un côté et les livres qui se veulent savants est assez fascinant, quitte à ce qu'on revienne ensuite d'ailleurs à la littérature. Le visage positif, le visage sympathique du gamin de Paris n'a pas disparu pour autant, parce que on le voit très clairement manifesté, par exemple, dans ce propos de Maurice Chevalier. C'est un disque que nous avons retrouvé grâce à l'efficacité de la discothèque de Radio France. Gavroche à travers les siècles, il va remonter à l'Ancien Régime, vous allez voir. Maurice Chevalier, 26 avril 1940, on est quelques semaines avant la débâcle.
Toute mon enfance s'est passée en pleine pépinière de Gavroche, dans la rue Julien-Lacroix qui relie la rue de Ménilmontant à la rue de Belleville. Où voulez-vous être mieux placé pour les voir évoluer, se fâcher, travailler, se dévouer, éclater de rire? Oh, il faut avoir bourlingué par le monde entier, vu les pays où des hommes sont blancs, jaunes, noirs, et malheureusement en ce moment verts, pour totalement apprécier ce que représente un vrai Gavroche, cette spécialité merveilleuse de notre capitale. Et la différence n'est pas longue à découvrir entre le vrai et le faux. Le faux, vulgaire, agressif, crapuleux. Le vrai, pur, direct, éclatant comme un diamant blanc-bleu. Je vais vous dire aujourd'hui comment j'ai déniché un Gavroche du temps des rois, du temps de Louis XV. C'était sur le Pont Neuf. Le Pont Neuf, il y a 200 ans, au XVIIIe siècle. Jaco Belloy, un gentil petit gars, maigre comme un chat de gouttière, l'œil vif, les habits râpés, une petite gueule intéressante. Il faisait le pharo, assis sur une borne. Qu'est-ce que tu fais là, Jaco Belloy? Rien. J'attends. T'attends quoi? Ben, qu'il se passe quelque chose de drôle pour moi sur le Pont Neuf. Ça me plaît, moi, la bousculade, la foule. J'y trouve toujours mon affaire. Une fille à ploter pendant que la mère écoute les charlatans. Une bagarre entre marchandes. J'y cours, je m'en mêle, et c'est bien rare si je ne trouve pas le moyen d'empocher au passage une pomme ou une orange. C'est mon élément que je vous dis. Et puis, dites-donc, hey, c'est là que je travaille.
Jaco Belloy montre bien la permanence d'un type, au moins dans l'imagination d'un personnage, celui du gamin de Paris.
Alors, bien sûr, là, il y a une sorte d'anachronisme, parce que Gamin de Paris, avant le 19e siècle, ça n'a pas de sens. Mais ce que ça montre bien, c'est la continuité du type jusqu'à nos jours, mais essentiellement sous la forme positive du type. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Victor Hugo est passé par là et a fabriqué ce type positif de Gavroche, auquel se réfère Maurice Chevalier, même s'il maintient, lui, l'idée qu'il y aurait peut-être une face sombre de faux Gavroche.
L'ambivalence demeure.
L'ambivalence demeure.
Cette ambivalence que, si je vous lis bien, on constate déjà à la mi-temps du 19e siècle.
Tout à fait. Tout
avec
à fait.
Ces écrits qui sont en violent contraste avec ceux de Victor Hugo. J'en cite encore un. C'est un poème de Auguste Barbier, célèbre en son temps pour l'hommage qu'il avait rendu au Corse, aux cheveux plats, entendez, jeune Bonaparte. Dans son poème sur les gamins de Paris, il est clair que le gamin appartient indiscutablement aux classes dangereuses. On est en 1831. Écoutez cela. « La race de Paris, c'est le pâle voyou au cœur chétif, au teint jaune, comme un vieux sou. C'est un enfant criard que l'on voit à toute heure, paresseux et flânant et loin de sa demeure, battant les maigres chiens ou le long des grands murs, charbonnant en sifflant, mille croquis impurs. » Ça, c'est intéressant, c'est déjà, ce sont les tags, déjà, il fait des cris sur les murs. « Cet enfant ne croit pas, il est détaché de la religion. Il crache sur sa mère. Le nom de ciel, pour lui, n'est qu'une farce amère. C'est le libertinage, enfin, en raccourci. Sur un front de 15 ans, c'est le vice endurci. Ô race de Paris, race au cœur dépravé, race ardente à mouvoir du fer ou du pavé, mère dont la grande voix fait trembler sur les trônes, ainsi que des fiévreux, tous les portes couronnes. Couronne, trône, la rime est un peu incertaine. Flot hardi, qui 3 jours s'en va battre les cieux et qui retombe après, plat et silencieux. » Fin du poème d'Auguste Barbier.
Voilà, alors on a en effet cette vision à la fois positive chez Victor Hugo, chez Jeannin, et totalement négative chez Barbier ou encore chez Goncourt. Les frères Goncourt qui, voyant un gamin, disent qu'il y a chez lui toutes les corruptions et toutes les caillanneries de Paris dans un petit monstre de l'âge de la première communion, poussé au moral comme un sang où se seraient succédé 3 générations de Vérole, un de ces enfants où tout le mal, tout le vice d'une capitale de 2 millions d'hommes est en effrayante miniature. Donc là aussi, on retrouve la même violence que chez Moreau-Christophe, que chez Chateaubriand ou que chez Barbier pour désigner ces enfants qui sont donc l'archétype du délinquant juvénile, qui bien sûr pratique le vol, la mendicité et toutes sortes des actions, j'allais dire en temps de calmes sociaux, mais qui surtout, dès que l'occasion s'en présente, vont être des auteurs de troubles sociaux et on a toujours le discours. C'est eux qui décèlent le premier pavé, poussent le premier cri séditieux, tirent le premier coup de fusil pour parler de ces gamins de Paris. Donc ils ont aussi là une dangerosité politique forte.
Mais avec les Goncourt, on en est déjà au tournant du Second Empire et de la Troisième République et on voit progressivement la figure du gamin de Paris laisser la place à la figure du gosse des rues qui correspond, semble-t-il, à un nouveau regard sur l'enfance.
Alors, tout à fait. On a, avec l'installation de la République, c'est-à-dire vraiment l'installation de la République, c'est-à-dire à partir de 1880, on a à la fois une redéfinition de la délinquance et une redéfinition des âges de la vie qui vont transformer totalement les choses pour nos gamins de Paris et pour la délinquance juvénile en général. Redéfinition de la délinquance, on abandonne bien sûr petit à petit la vision de la délinquance comme l'affaire d'une classe dangereuse qui se confondrait avec la classe laborieuse. C'est incompatible avec le développement du régime républicain, tout simplement. Donc on a l'idée que désormais il ne s'agit plus d'une classe dangereuse, mais d'individus dangereux, qu'il convient de repérer grâce notamment à la science et notamment grâce à la criminologie. Une nouvelle lecture de la délinquance qui est tout à fait différente de la lecture en termes de classe dangereuse.
Et puis peut-être d'intégrer dans la société grâce à l'école gratuite et obligatoire.
Et en plus, l'intégration des classes populaires, elle va passer par qui ? Par les enfants et notamment par l'école. Donc on va cesser de disqualifier ces enfants. Petit à petit, le gamin de Paris dangereux deviendra le gosse de Paris, le gosse de la butte, celui que dessine Poulbeau, qui garde quelques traits du gamin, le côté gouailleur, le côté plaisantin, le côté... mais qui n'a plus de dangerosité sociale. S'il a un rôle social, c'est celui de victime, c'est plus jamais celui de dangereux.
Nos auditeurs ont en mémoire les dessins de Francisque Poulbeau, oui, mais... qui a eu le grand mérite de donner son nom, le privilège de donner son nom, effectivement, à un type de gamin. On dit un Poulbeau.
Il réalise une couverture pour le journal libertaire Les Hommes du Jour, pour l'Humanité, 1er mai 1911, avec cette légende « Au petit prolétaire, l'avenir appartient ».
Oui. Le gamin de Paris n'est pas tout de suite dépolitisé, y compris par Poulbeau lui-même, puisqu'il reste encore un personnage pouvant contribuer aux émotions populaires ou aux émeutes. Après la Commune de Paris, c'est vraiment quelque chose qui va petit à petit disparaître, cette vision de l'enfant émeutier.
Alors, il y a des gamins, mais il n'y a pas de gamines. Les filles ne sont pas tellement présentes dans cette représentation sociale.
Sur le premier 19e siècle, non, il n'y a pas de gamines. La dangerosité féminine est totalement interprétée autrement. Il ne s'agit pas de délinquance, il s'agit de déviance. C'est avant tout de déviance sexuelle. Le danger qui viendrait des gamines, c'est avant tout le danger vénérien. Via la prostitution, le risque de la contamination vénérienne. Elles ne sont pas présentées comme présentant un danger de délinquance.
Mais ouais. Comme s'il y avait une sorte d'étrange cybernétique sociale, au moment où le gosse des rues est en train de perdre de sa coloration inquiétante, on voit surgir autre chose, c'est-à-dire la thématique des Apaches. Thématique des Apaches qui sont plus vieux, peut-être.
Ils ont une quinzaine d'années, c'est des adolescents. Et l'Apache, en effet, c'est une recomposition des âges de la vie qui fait que si l'enfant est sorti du champ de la délinquance pour être éventuellement simplement dans le champ du social, de l'enfant en danger, on va se concentrer sur cette nouvelle figure de la dangerosité qui est l'adolescent.
Chez un bistrot du quartier de la Viltouze, les barbillons trinquaient à la santé d'un de leurs poteaux qui des carrettes s'entrouse et l'on chantait « Vive la liberté !» Tant pis pour vous, messieurs de la raclette, tant pis pour vous, messieurs les collégiens. Faut pas chercher les garçons de la Villette, car leurs couteaux sont pas faits pour les chiens.
Ouais, les Apaches.
Les flicards veulent nous ceinturer de rip, nous fabriquer, nous conduire à la tour. Marron sultan, ces jours-là, il y a de l'arbif. On leur s'y met 122 dans le tambour. Faut pas non plus aller se frotter derrière nos petites bergères qui se baladent ici go. Boubin sans sa gare à la boutonnière, gare au coup de sion dans le lit d'ombène du go.
Oui, les Apaches, à nous les otages, les lingues.
D'abord, nous autres, on fait pas de politique. On vote toujours pour le gouvernement. On se fout du roi comme est de la République. Pourvu qu'on puisse travailler tranquillement.
Oui, les Apaches, à nous les otages. Les lingues à Tirole, les longes d'assassins. Pour le bidon des roussins. Et pour le ventre des casseroles.
Je ne sais pas si vous avez tout compris, Jean-Jacques Ivorel. Il y a le ventre des roussins, c'est-à-dire les policiers, les sergents de ville, qui en surinent. Et puis le ventre des casseroles. Les casseroles, ce sont tous ceux qui ne sont pas les Apaches, en somme, les bourgeois.
Voilà, c'est les bourgeois, plus largement tous ceux qui ne sont pas de la bande.
Ce qui est dit dans cette chanson, c'est une interprétation par Marc Augeret, ultérieure de la fameuse chanson d'Aristide Bruand. Mmh. On est frappé du fait qu'ils affirment qu'ils ne s'occupent pas de politique. Alors, il n'y a pas de désir d'intervention sociale ou sur la marche de l'histoire, nullement, ce qui pouvait apparaître dans certains cas. C'est ceux qui faisaient la révolution, les gamins de Paris. Là, il s'agit essentiellement d'avoir profit à dérober, à tuer, etc.
Le gamin de Paris, en effet, est lui un personnage politisé dans les versions notamment positives du type. On souligne son caractère progressiste. Gavroche est engagé, alors que l'Apache, non. Même si de temps en temps, on l'assimile à des anarchistes, mais voilà. Alors, l'Apache est plus vieux que le gamin, c'est l'adolescent. C'est-à-dire que la nouvelle figure de la dangerosité, ça va être l'adolescent. Et ça se traduit dans le droit. C'est-à-dire que d'un côté, on ne pourra plus condamner les mineurs de moins de 13 ans, on ne pourra que avoir à leur égard des mesures d'aide et de, on dirait aujourd'hui des mesures éducatives. Et par contre, il y aura un accent qui sera mis sur les adolescents, et notamment sur les grands adolescents, ceux de 16 à 18 ans, qui sont, par des dispositions juridiques un peu longues à expliquer, mais qui sont surpénalisés, puisqu'ils se retrouvent dans une situation où soit on va dire qu'ils sont discernants. Expliquez ça,
c'est le fameux article 66 du Code pénal.
Oui, alors ça, c'est le fer de lance de la politique pénale à l'égard des mineurs. Donc, quand on juge un mineur, d'abord de 16 ans jusqu'en 1906, puis après de 18 ans à partir de 1906, le tribunal doit d'abord répondre à une première question. A-t-il agi avec discernement? S'il a agi avec discernement, il est condamné à une peine qui, en gros, est réduite de moitié par rapport aux adultes.
A-t-il agi, en somme, comme aurait fait une grande personne?
Voilà, et comprenait-il ce qu'il faisait? Ou a-t-il agi sans discernement? Et s'il agit sans discernement, il est acquitté, comme s'il avait été en état de démence.
Oui, mais.
Il est acquitté, mais selon les cas, il sera remis à sa famille ou envoyé en correction jusqu'à un âge que la Cour déterminera et qui ne pourra pas dépasser sa 20e année jusqu'en 1906, sa 21e année après 1906.
Pour un temps qui serait donc éventuellement plus long que celui qui lui aurait été appliqué s'il avait été considéré comme ayant du discernement.
S'il avait été considéré comme ayant du discernement ou s'il avait été adulte.
Oui, c'est l'équivalent.
Voilà, par exemple, un vagabond adulte ou un mineur discernant, vagabond, risque 3 mois de détention. Un mineur non discernant de 8 ans va pouvoir être envoyé en correction, vagabond, va pouvoir être envoyé en correction jusqu'à sa 20e année, c'est-à-dire détenu, en fait, pendant 12 ans.
On comprend que les avocats aient plutôt poussé à ce qu'on affirme qu'il avait du discernement.
Quand ils voulaient vraiment défendre leurs clients, c'est ce qu'ils essayaient de faire.
Cette question du jugement des mineurs et de l'âge qui doit marquer une différence, elle est de tous les temps. Rappelez-vous que l'actuel chef de l'État, Nicolas Sarkozy, durant sa campagne présidentielle, déclarait « l'impunité des mineurs est catastrophique. Si je suis élu président de la République, je proposerai qu'un mineur multirécidiviste entre 16 et 18 ans soit puni comme un majeur ». On retrouve toujours cette problématique.
Ceci dit, c'était pas très très innovant parce que déjà, un mineur de 16 à 18 ans peut fort bien être puni comme un majeur. Je vous rappelle que le dernier mineur qui a été condamné à mort, ça date de 1974.
Il n'est pas exécuté.
Il n'a pas été exécuté, mais condamné à mort quand même. En effet, un mineur de 16 à 18 ans, on peut ne pas retenir l'excuse atténuante de minorité. Et si on ne retient pas l'excuse atténuante de minorité, il est jugé comme un majeur. Il encourt les mêmes peines que s'il était majeur.
Tout cela, Jean-Jacques Yverel, nous conduit pour finir dans cette émission consacrée à la délinquance juvénile et à l'angoisse sociale du 19e siècle à nos jours, nous conduit à une réflexion sur ce qu'a été la répression, qui elle-même découle directement de l'interprétation qu'une société, les philanthropes, les juristes, les médecins peuvent faire des motivations de comportements délictueux.
La monarchie de Juillet va installer en effet une nouvelle réponse à la délinquance juvénile qui vont être ce qu'on a appelé les colonies pénitentiaires. On appellera souvent maison de correction, mais le titre n'a jamais été un titre officiel. C'est une appellation courante, mais pas une appellation officielle.
Le titre fait tâche, effectivement. On préfère dire un mot plus euphémisé.
Voilà. Donc, ces colonies pénitentiaires, agricoles au départ, puis qui pourront ensuite être aussi maritimes, comme à Belle-Île-en-Mer, ou industrielles, comme à Agnan, ces colonies pénitentiaires vont être la réponse essentielle à la délinquance juvénile pendant plus de 100 ans.
Pour Maîtrait, par exemple, rappelons ce qu'a été Maîtrait.
Maîtrait a duré, a failli fêter son centenaire, puisque Maîtrait est inauguré en 1839, mais sera fermé en 1937, donc elle ne fêtera pas son centenaire.
On parlait de bagne pour enfants, c'est le moment aussi où on ferme les bagnes, le bagne de Guyane.
Les campagnes empruntent les mêmes chemins, les campagnes contre ce qu'on appelait les bagnes d'enfants et les campagnes contre le bagne tout court recoupent souvent les mêmes acteurs.
Punition et réinsertion, comment ces deux soucis s'organisaient-ils dans un endroit comme Maîtrait?
Il y avait un souci éducatif au départ du projet, un éducatif du 19e siècle réservé aux enfants des classes populaires. Donc on n'est pas dans la méritocratie républicaine, ça c'est sûr. Mais il y avait quand même un souci éducatif. ce souci éducatif disparaît très très vite et ces institutions deviennent uniquement des institutions disciplinaires, ce que Christian Carlier a appelé une prison aux champs, mais une prison quand même, même si elle était au milieu des champs. Et l'aspect punitif l'emporte sur tout le reste, avec y compris l'usage assez courant et permanent de formes de violence physique.
Est-ce qu'on sait ce que ces enfants, ces adolescents sont devenus quand ils ont été libérés ensuite ?
Alors, on ne sait pas tous ce que sont devenus tous ces enfants. On sait ce que sont devenus certains, parce qu'un nombre quand même assez important auront l'occasion de refréquenter, j'allais dire, la chronique judiciaire. On en retrouve quand même beaucoup dans les Baddaf, à Biribi. Dominique Khalifa a bien montré qu'un certain nombre de ces jeunes se retrouvaient, de façon tout à fait anormale d'ailleurs, hein, dans ces régimes
bataillons disciplinaires. Vous faites allusion au très beau livre de Khalifa, voilà, qui s'appelle Biribi,
précisément. Biribi, voilà, oui. Tout à fait. Voilà. Et donc on voit qu'un certain nombre de jeunes délinquants se retrouvent dans ces... Alors que théoriquement, ayant été acquittés comme ayant agi sans discernement, ils n'ont pas de casier judiciaire et donc ne relèvent pas de ces régiments. Ce n'est pas parce qu'ils n'en relèvent pas qu'on n'y en voit pas.
Si on évoque ces colonies pénitentiaires et si on restitue le regard de sévérité d'une partie de la société qui se résigne assez bien aux méthodes employées là et d'autre part d'indignation d'autres poètes, écrivains, philanthropes, on peut se référer au fameux poème de Jacques Prévert qui s'appelle « La chasse à l'enfant » et qui évoque une mutinerie en août 1934 à Belle-Île-en-Mer, qui est une autre de ces colonies pénitentiaires. C'est un enfant qui s'est échappé. Et l'interprétation est des frères Jacques.
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a que ces hurlements. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement, et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents, et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit, et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, ces messieurs sur le rivage, sombre, douille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le pont?
C'était donc Les Frères Jacques, 1957, La chasse à l'enfant de Jacques Prévert, sur une musique de Joseph Cosma. Jean-Jacques Ivorel, comment réagissez-vous à cette chanson exhumée ?
Alors là, on est donc en plein dans la campagne contre les bagnes d'enfants de l'entre-deux-guerres. Ce n'est pas la première, mais celle-là va remporter un certain nombre de succès, alors que la première, non. Alors, il faut quand même en dire, donc cette solution agricole va être utilisée massivement puisqu'on aura jusqu'à près de 10 000 mineurs enfermés dans ces institutions au milieu du 19e siècle et au début de la Troisième République. avant que la République soit républicaine. Voilà. Pendant la période de la République de l'ordre moral, on aura un pic de répression.
Les années 1870 jusqu'au 16 mai 77 et au début des années 80.
Voilà, tout à fait. On a de nouveau un pic de répression qui fait qu'il y a plus de 9900 mineurs sous main de justice dans ces maisons de correction. Alors, il y a une première campagne au début de la Troisième République contre ces maisons de redressement, comme on les appelle dans le langage commun, mais qui finalement va se heurter à un discours sécuritaire, parce que le discours sécuritaire que Dominique Khalifa a bien, dans un autre livre, L'encre et le sang, a bien analysé, et qui va faire que, d'abord, on ne votera pas l'abolition de la peine de mort en 1908, hein, et aussi que...
Malgré le souhait de Jean Jaurès et du président de la République,
tout à fait, qui était Armand Fallière. Malgré une majorité théorique à la Chambre pour voter cette abolition, et de même, on ne va pas réformer sur le fond ces structures, parce que on est en plein phénomène apache et on voit là une réponse au phénomène apache. Donc, on ne touchera pas sur le fond à ces maisons de correction, malgré une première campagne, malgré un roman, celui de François Copé, Le Coupable, qui dénonce ces maisons de correction. C'est publié en feuilleton dans Le Journal, qui tire 1 million d'exemplaires, malgré des pièces de théâtre, avec notamment pour la première fois l'expression « bagne d'enfant hein, », avec même les premiers films muets qui vont dénoncer ces institutions, mais malgré tout, on ne va pas les réformer.
On est toujours avant 14.
On est toujours avant 14. Et c'est après-guerre, au moment de cette chanson, qu'une seconde campagne contre les bagnes d'enfants, où toute une série d'intellectuels comme Henri Vallon, comme Jacques Prévert, comme Marianne Oswald, comme Roger Vaillant, comme voilà, vont prendre parti, que cette campagne obtiendra ses premiers résultats et qu'on va rentrer dans une voie très timide au départ, de réforme de ces institutions, qui aboutira alors petit à petit à leur disparition.
Mais on n'en a pas fini avec le grand débat qui a ressurgi à la fin des années 1990 et au cours de la dernière décennie sur la légitimité, l'opportunité de séparer un certain nombre de ces sauvageons, de les séparer des milieux où ils évoluent et éventuellement ils créent une atmosphère insupportable aux autres pour les regrouper ailleurs. C'est une question que la société ne cesse pas de se poser, comme au 19e siècle.
À chaque fois, bien sûr, ce qui n'est pas posé, c'est les raisons profondes de ces déviances.
On l'évoque quand même beaucoup dans la presse, dans les écrits d'un certain nombre de nos contemporains, non ?
On renvoie quand même très fréquemment les causes de la délinquance juvénile à des causes qui seraient familiales, microsociologiques et familiales. Beaucoup plus rarement, bien sûr, aux problèmes sociaux globaux.
Sur cette réflexion sur la responsabilité globale de la société, je voudrais pour finir donner la parole à Robert Badinter. Vous parliez de la peine de mort. Il a porté l'abolition, comme nous savons, en tant que garde des Sceaux en 1981 au Parlement. Il s'exprime là dans l'émission télévisée Face à la Troie, Face à la Troie, sur la troisième chaîne, le 4 octobre 1985.
Il y a à peu près en France, à l'heure actuelle, on sait-il, entre 160 000 et 220 000 jeunes gens et jeunes filles, 16-22 ans, pas d'emploi, peu de formation professionnelle, une scolarité insuffisante, des attaches familiales souvent disloquées, très communément pas de foyer stable, et ce que l'on appelle cruellement un plan de vie à deux jours. C'est-à-dire une situation dans laquelle, avec un tel noyau, vous avez inévitablement une délinquance enracinée dans une société. Alors, c'est vous qui avez utilisé le vieux terme laxisme. Les prisons, on le disait tout à l'heure, elles sont pleines. Et ce n'est pas en envoyant pour quelques mois, s'il devient un délinquant, un de ces jeunes gens, une de ces jeunes filles en prison, que vous allez le trouver meilleur à la sortie. En réalité, chacun sait que ça sera un échelon de plus. Alors, dans cette situation, qui est très difficile, moi, je suis arrivé à une condition très simple. Vous avez ce noyau, cette masse considérable de jeunes gens et de jeunes filles. Vous avez l'immense travail que fait l'éducation surveillée, qui s'occupe des jeunes en danger, qui a des éducateurs qui se donnent beaucoup d'eux-mêmes, qui a des professionnels. Vous avez aussi des associations, qui sont des relais. Mais vous avez, en France, un nombre considérable de gens qui ont beaucoup de cœur et qui ont du temps, et qui, pour nous, seraient utiles, plus qu'utiles, indispensables. Je m'explique. Nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin de plus de formateurs. formation professionnelle. Nous avons besoin de plus d'éducateurs, instituteurs, professeurs. Nous avons besoin de moniteurs sportifs. C'est très important.
Vous appréciez, j'imagine, Jean-Jacques Ivorel, vous qui formez des éducateurs spécialisés, l'hommage que leur rend Robert Badinter, mais est-ce qu'on peut faire fond uniquement sur leur rôle pour traiter du problème de l'enfance délinquante ?
Non, d'abord parce que les éducateurs spécialisés n'interviennent qu'une fois que ces jeunes sont déjà entrés dans la délinquance. Donc voilà. Mais l'intérêt, enfin, du discours de Robert Badinter, c'est qu'il repose les choses de façon macro-sociologique. J'évoquais les 10 000 mineurs dans les colonies pénitentiaires au XIXe siècle. Pour l'essentiel, ce sont des enfants des rues. Ils sont condamnés pour vagabondage et ce sont des enfants des rues. On en a enfermé des dizaines de milliers. Ça n'a absolument rien apporté au problème de l'errance juvénile. Ces enfants sont d'authentiques victimes d'un ordre social injuste, mais ce n'est pas des tendres. Hein. Je veux dire, les enfants qui survivent dans la rue ne sont pas portés naturellement à la tendresse et à l'irénisme. Ce qui a fait que nos villes ne ressemblent plus au Caire ou à Bogota ou avec ces enfants, ce n'est pas la répression, c'est l'école gratuite, laïque et obligatoire, c'est l'enrichissement général, c'est un changement de mentalité des classes populaires qui disent plus à leurs enfants quand ils ont 10 ou 11 ans, maintenant t'es grand, va gagner ta vie. C'est ça qui a fait que l'enfant des rues, tel qu'on peut le voir dans le tiers-monde, a disparu de nos villes. Et ce n'est pas la répression. La répression a été totalement inutile dans la lutte contre ce phénomène. L'intérêt du discours de Robert Badinter, c'est de réintroduire une dimension macroéconomique, macrosociale, et donc, au-delà de la suggestion de faire appel au bénévolat, de resituer là où sont les solutions, dans une prévention primaire. Il décrit très bien la situation, hein, quand on a des enfants en échec scolaire lourd, on a affaire à des adolescents de 16 ans qui ne maîtrisent pas du tout l'écriture et la lecture, qui n'ont aucune formation professionnelle, qui n'ont tout ça, c'est avant qu'ils aient 16 ans qu'il faut le traiter, c'est pas une fois qu'ils ont 16 ans. Apprendre à lire et à écrire à un adolescent de 16 ans qui n'a pas réussi jusque-là, c'est vraiment pas facile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment pas facile. Donc c'est avant qu'il faut introduire des éléments de résolution de ce genre de questions. Il restera bien sûr quelques situations individuelles.
Est-ce qu'on peut néanmoins faire complètement l'économie de la question de la répression pour ceux qui ont échappé à cet effort de soutien collectif?
Je pense que même pour ceux qui ont échappé à ce soutien collectif, comme le dit Robert Badinter, hein, c'est pas de les envoyer quelques mois en prison qui va solutionner la question. Comme il le dit fort bien, c'est un pas de plus dans l'exclusion et dans la marginalisation.
Merci beaucoup Jean-Jacques Ivray. Voilà un cas où si je vous suis, il existerait des leçons de l'histoire. Vous avez publié un article qui a inspiré notre conversation sur les gamins de Paris dans la revue L'Histoire de l'enfance irrégulière, qui s'intitulait « Images de l'enfance et de la jeunesse irrégulière » qui est paru en juin 2002. Votre article était nommé « De Delacroix à Poulbeau », à Poulbeau, l'image du gamin de Paris. Vous avez d'autre part publié avec Jean-Claude Caron et Annie Stora-Lamar Les âmes mal nées, jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe, 19e, 21e siècle, aux presses universitaires de Franche-Comté en 2008. Et puis il faut rendre hommage au très beau livre d'Ivan Jablonka, qui vient de paraître au Seuil, Les enfants de la République, l'intégration des jeunes, de 1789 à nos jours. On retrouve beaucoup des thèmes que nous avons évoqués, n'est-ce pas Jean-Jacques Ivorel?
On a plusieurs fois travaillé ensemble sur ces thèmes. Son livre, en effet, fait une... dans une perspective d'histoire de longue durée, c'est une histoire de la prise en charge des enfants des classes populaires 19e, 20e siècle.
Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores que nous avons utilisés sur le site internet de France Culture, qui est en voie de réaménagement efficace, à la page de Concordance des temps, et où vous pourrez également réécouter, télécharger cette émission, je l'espère, et réagir en ligne. Samedi prochain, nous irons beaucoup plus loin en arrière, nous irons jusqu'à l'Athènes du 5e siècle pour y considérer quelles étaient les relations entre les hommes politiques, la culture et l'argent. Et vous serez peut-être surpris de voir le nombre d'échos que l'on peut trouver dans notre temps présent avec ce moment très reculé. Mon invité sera Pauline Schmidt-Pantel.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, avec la collaboration de Meryl Moneghetti, et avec Eva Bester, Diane Lamant, Simon Tabet, Jérôme Bonnetin, et à la prise de son, Benjamin Vignal, avec aussi pour les archivinas, Hervé Evano.